Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show en direct du Grand Palais Éphémère.
Vincent Moscato.
Il est 16h06, on est dans le Super Moscato Show, on est en direct, vous l'avez entendu, du Grand Palais Éphémère. On est à côté du Champ de Mars, c'est J-100. Avant les JO, on est avec Christophe Cessieux. Ça va, mon Christophe?
Oui, ça va.
Ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas travaillé avec nous.
Ouais. T'as pas perdu pas, la main. Que j'avais pas bossé du tout.
T'as pas perdu la main. Bon, tu l'avais jamais trouvé, mais bon, on avait Steve Foulet.
Oui, Vince.
On est avec Adrien. Alors écoutez, on va recevoir des sportifs comme s'il en pleuvait. On va voir la petite Mosley qui va nous parler.
Estelle Mosley.
Parce que pour nous, un peu, qui sommes un peu plus âgés que vous, la boxe féminine, on en voyait pas beaucoup.
Estelle, Vincent, ouais. C'est historique que tu aimes bien l'histoire.
Ah oui,
la boxe, on la voyait qu'au jeu.
Oh,
première française olympique de boxe de l'histoire.
Championne olympique.
C'est la première championne olympique française de l'histoire. Ouais. Elle est en train de s'installer. Elle va te remettre une droite énorme.
Voilà, comme ça maintenant.
Elle arrive. On la laisse s'installer tranquille et pendant que Christophe nous donne le programme.
Dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Dans demi-heure,
je sais pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans demi-heure? On pourrait parler des sports collectifs, par exemple. Six médailles. 6 médailles lors des derniers Jeux olympiques. Est-ce qu'ils vont faire mieux? Est-ce que le hand peut faire mieux qu'à Tokyo? Ça va être dur, de médaille d'or.
Pareil, déjà, ça serait bien.
Le basket peut faire mieux, en revanche.
Le basket peut faire mieux, mais c'est
beaucoup
compliqué.
Mieux, même.
Oui, mais c'est compliqué quand même.
Le volley fera-t-il mieux? On verra tout ça. Et puis, on accueillera donc Mickaël Guigou, qui lui a quand même 3 titres
et
de champion olympique.
Comment on dit, Stephen, quand tu vois Guigou? Comment tu lui dis bonjour?
Guigou, Mickaël, ça va?
À partir de combien de fois c'est lourd?
Non, mais on répète.
C'est lourd.
Non, mais attends, il y a un spectacle au théâtre des deux ânes à la rentrée en septembre.
On répète
les sketchs. Qu'est-ce que tu veux?
D'ailleurs, pour l'instant, Brahim Asloum, mais tarde à arriver. Je sais pas où il est, mais tu l'as croisé, je crois. Il avait un souci, non?
Il a pris foi, je l'ai vu faire Asloum.
Asloum. Non, mais souvent, il est ternu. D'ailleurs, il a toujours le même mouchoir. Ça fait 20 ans, il a un mouchoir à carreaux comme ça. Écoute-moi, il n'y a que des huîtres, des huîtres de Laurent.
Je vous rappelle la question moyenne du jour, la question moyenne du jour à laquelle répondra Eric Dimeco à 17h. Il arrive à 17h, Eric.
Il arrive.
Qui a le plus de chances de devenir champion olympique cet été à Paris? Victor Wembanyama ou Kylian Mbappé? Pour l'instant, vous répondez Wembanyama à 62% sur X. Bon,
Et vous n'oubliez pas non plus Paris 2024 au 7-32-16 si vous voulez gagner des places pour les Jeux Olympiques. On est à J-100 aujourd'hui et on a des places à vous faire gagner pour la cérémonie d'ouverture, pour la finale du 100 mètres, pour le judo, pour le tennis de table, pour la natation, pour tout. Il y a des places. En veux-tu, en voilà.
On les jette comme ça.
Oui, on les jette.
Même s'il nous en reste, on louera un hélicoptère, on les jette sur la ville de Paris comme ça. Blam. On dira, allez chercher sur le toit de Paris, allez chercher les quelques places qui nous restent pour la boxe.
T'en gardes un
pour
quelque chose pour toi quand même.
Mostly pour l'avoir, oui, pour l'avoir boxé.
Eh ben oui.
Oui, ben
parce que là, on parle de boxe tout de suite dans le Super Moscato.
Quelle transition j'ai fait.
J'ai eu vraiment l'impression que le crochet droit de Brahim Asloum arrivait. Il est fort bien protégé.
Asloum a gagné ce match, il a gagné tous les rounds.
J'y vais sur le ring avec la jambe mal plate et une main attachée derrière.
Estelle Mosley, elle est championne olympique.
Quitte à prendre une branlée, j'y vais.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Et à J-100, on accueille une championne olympique. C'était en 2016 à Rio. Ouais. Elle avait fait rêver la France, devenant la première française championne olympique de boxe. Estelle Mosley est avec nous aujourd'hui. Bonjour,
ça
Estelle.
Bonjour.
Salut.
Ça va très bien.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir.
On est heureux de t'accueillir, tout simplement.
Bah, c'est très gentil. Je suis ravie d'être avec vous.
Tu es dans l'émission qui aime la boxe. Voilà. Parce que Vincent a boxé, comme tu viens d'entendre.
J'ai boxé. Toi, Estelle Mosley, tu t'évites de dire que j'ai boxé. Et moi, je passais mon temps à plaquer les mecs sur le terrain. sur le ring.
Sur le ring.
Sur le terrain, bien sûr, mais comme j'ai fait les deux, donc.
Tu as boxé sur le terrain également, Vincent.
Parfois.
Voilà.
C'était moi autorisé.
Estelle qui a tout gagné en boxe. Championne olympique, donc en 2016, championne du monde la même année. Là, c'était dans les rangs amateurs. Et puis ensuite, après les Jeux, tu es passée professionnelle. Et là aussi, tu es devenue championne du monde. Et là, tu reviens donc à la boxe olympique. Ce qu'on disait, la boxe amateur, qui a plus vraiment de. La connotation est plus vraiment, oui, n'existe oui. plus vraiment.
C'est pareil, boxe olympique, boxe amateur. Je reviens pour avoir un deuxième titre olympique. Je me dis que ce serait pas mal repartir à la maison, d'avoir ça à nouveau, de revivre ça à nouveau. Et puis avec tout ce que ça comprend, les Jeux olympiques, le fait d'être au sein d'une équipe, très différente du milieu professionnel, hein, complètement différent. Mais c'est ce qui m'a le fait le plus vibrer et qui m'a le plus apporté.
Oui, parce que quand tu as été championne du monde chez les pros, t'as pas eu la même émotion que
non, c'est pas pareil. Et je suis pas arrivée à ma plus grande victoire, très certainement chez les professionnels. Hein. On parle de réunification de ceinture en pro pour vraiment être au summum. Mais les choses sont très différentes. C'est beaucoup de sport business, c'est des contrats signés à l'avance, des arrangements pour boxer tel boxeur. Bon, pour moi, la boxe olympique, c'est juste le sport. On vient, meilleur ou pas meilleur, on peut rencontrer le plus nul, le meilleur, tirage au sort et allez, on y va, on fait le tour, on fait ce qui s'apparente à un tournoi, un championnat du monde s'apparente à un tournoi, on est susceptible de rencontrer n'importe qui et pour moi, ouais, c'est beaucoup plus sportif.
Et c'est facile de faire la bascule boxe pro, boxe amateur, les règles, cardio, la condition
c'est
physique.
Très c'est très dur.
Qu'est-ce qui est dur en détail?
Ce qui est très dur, c'est déjà de démarrer au quart de tour en boxe olympique. En pro, on a le temps, on a 10 rounds. En boxe olympique, on n'a pas le temps.
Il faut scorer tout de suite.
Ah, tout de suite, c'est terrible.
C'est asphyxie, quoi. Quand t'es plus habitué,
complètement. Complètement. Ouais. Bah, déjà, le temps, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas pris le pas là-dessus, en fait, le temps qu'on se réveille, le combat est terminé.
Ah oui, oui.
3x3, ça va très vite. Et en plus de ça, ça va, comme je l'ai dit, très vite. Donc il faut que le cœur assume la cadence.
Tu as senti la boxe féminine progresser énormément? Il y a beaucoup plus de monde maintenant dans ta catégorie qu'il y avait autrefois, qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans.
Alors c'est particulier parce que. Les personnes se sont un peu étalées. Il y a plus de KT chez les femmes. Moi, quand j'ai fait les Jeux Olympiques en 2016, il n'y avait que 3 KT. Maintenant, il y en a 6. Donc, le niveau a augmenté, oui, mais il y a plus de KT. Donc, finalement, il n'y a pas plus de monde dans ma catégorie.
D'accord. C'est-à-dire que maintenant, c'est réduit, quoi. À 3 kilos près, tu n'es plus dans la même catégorie.
Exactement. Il y a 57, il y a.
Mais on perd les passionnés un peu là-dessus. Les catégories, on ne sait plus. Tu vois, on ne sait plus. Il y en a trop.
Il y a beaucoup de KT, mais quand on est sur le ring, on comprend que c'est bien.
Oui, je le comprends. Mais des fois, tu as des catégories à 3-4 kilos. Bon, on s'y perd les crabes, quoi. Tu vois,
ouais, on s'y perd beaucoup.
On ne sait plus les mecs dans quelle catégorie ils sont, ou les filles dans quelle catégorie elles sont.
C'est surtout chez les filles, je trouve que oui, les filles changent beaucoup de catégories. Comme il y a moins de monde que chez les hommes, les filles ont tendance à changer pas mal de catés. Alors, beaucoup moins dans le milieu olympique, parce que bon, il y a une équipe, il y a des places qui sont prises. On ne va pas prendre la place de l'autre. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, par exemple, on a tendance à changer beaucoup de catégories.
Tu peux être championne du monde dans 3-4 catégories, ouais, maintenant c'est pas.
Complètement.
C'est plus. À l'époque, il y a 30 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant surtout chez les filles, c'est quand même très,
voilà,
très jouable.
Chez les filles, c'est très jouable de changer de catégorie.
Et tu connais toutes tes concurrentes pour Paris 2024 ou ce sera surprise?
Côté asiatique, il y a des petites surprises. Il y aura des petites surprises. Il y a toujours des surprises côté asiatique de toute façon. Mais j'ai beaucoup rodé en Europe. J'ai vu un peu ce qui se passait en Amérique latine, aux États-Unis. Bon, j'ai pas encore le côté asiatique, mais je vais l'avoir dans pas longtemps puisqu'il y a le dernier IQO qui se passe en Thaïlande. Et ça va être l'occasion de voir ce qui se passe juste avant, lors d'un stage.
C'est très rare quand même pour un champion ou une championne de boxe d'arriver à regagner 8 ans plus tard. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, Estelle, dans l'histoire de la boxe. Souvent, les boxeurs olympiques passaient ensuite professionnels et ne revenaient jamais en arrière.
Il y a Rocky. Rocky,
il a tout fait.
Il était fort, Rocky.
Il a tout fait. Après, tu repasseras professionnel et tu reviendras pour
Los Angeles. Dernier jeu. C'est les derniers Jeux Olympiques. Je repasserai professionnel, oui, mais ça va être mes derniers Jeux Olympiques parce que c'est très dur de passer d'un rythme à l'autre. Alors pourquoi ça se faisait pas? Parce que de toute façon, on n'avait pas le droit déjà.
Oui, maintenant tu peux être professionnel.
Voilà, maintenant tu gagnes de l'argent. Ça, c'est que depuis 2016 chez les hommes et depuis 2021 chez les femmes.
Mais tu es limité dans le nombre de combats professionnels, c'est-à-dire si tu as plus de 15 combats ou 20 combats, tu peux plus faire les JO ou c'est pas limité?
Non, c'est pas du tout limité.
Ça veut dire que Tyson Fury, s'il veut, il fait les Jeux Olympiques.
Voilà, exactement. Mais est-ce que ça aurait du sens?
Non, c'est pas
forcément. Voilà. D'une part, déjà, c'est une une très grosse prise de risque parce que ça n'a rien à voir. Les qualités physiques qu'on demande sur la boxe olympique ne sont absolument pas les mêmes qu'en boxe professionnelle. Ouais. Ça va très vite et du coup, bah, ça joue aussi hein, sur la boxe, le fait de devoir délivrer des coups très rapidement, ça joue sur la forme même de notre boxe. Sûr, ouais. Et puis après, bon, quand on parle de Tyson Fury, on parle d'enjeux financiers quand même conséquents.
Ouais. et puis, il aurait du mal dans le village olympique.
Ça serait
compliqué.
Je pense,
ouais.
Je crois que le frigo, il n'y aurait pas les boissons que je désire dans le frigo.
Il faudrait
quelques tireuses à bière.
Hein. Estelle, tu nous as dit rapidement comme ça, non mais en fait, après les Jeux, je vais continuer ma carrière professionnelle. Ouais. Imaginons l'histoire magnifique, tu es championne olympique à Paris. Tu n'aurais pas envie d'arrêter là-dessus? Je veux pas te faire arrêter, au contraire, nous on aime bien te voir sur le ring, mais c'est
surtout voilà, on annonce une bonne carrière.
Non, pas du tout.
Mais c'est une autre boxe.
Tu vois ce que je veux dire, la boxe est dure, tu es double championne olympique, t'as autre chose dans ta vie, t'as déjà préparé l'après.
C'est vrai, alors je dis pas que je continuerai 10 ans, mais d'accord. Je continuerai quand même un peu parce que quand je suis repassée sur les Jeux Olympiques, là pour Paris, c'était en plein milieu d'une carrière. J'étais pas arrivée au bout de quelque chose encore. Donc j'ai quand même envie de voir ce qui m'attend après un deuxième titre olympique.
Et puis derrière, il y a un autre métier qui t'attend. Tu t'es lancé dans la promotion de combat de boxe, c'est ça?
Complètement.
Alors où tu en es de ce projet-là? Est-ce qu'il est déjà bien avancé? Est-ce que tu as déjà organisé des soirées? Et quel est ton but justement après ces organisations?
Bien sûr, j'en ai organisé deux déjà des soirées. La deuxième sur laquelle je n'ai pas boxé puisque je me suis blessée deux semaines avant mon combat. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Je pense à pouvoir amener une vision un peu différente que par rapport à d'autres promoteurs qu'on a en France. J'ai envie de rester un peu dans mon milieu quand même, la boxe, sans forcément continuer à être compétitrice, mais c'est une façon de rester dans mon milieu, c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais, et puis je connais quand même beaucoup de boxeurs qui ont des attentes particulières, qui ont envie de faire et qui n'ont pas forcément la plateforme nécessaire pour s'exprimer comme ils le font.
Là aussi, quelle évolution, parce que les promoteurs de boxe, on les imaginait avec un chapeau avec des guns à la ceinture, là de voir une jeune femme organiser des combats de boxe, se mélanger à ce milieu très 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 masculin, là aussi c'est incroyable cette progression.
Je suis mélangée à ce milieu depuis maintenant bientôt 20 ans. Donc
depuis toute petite.
Ça commence à faire pas mal d'années.
Oui.
Non mais voilà, c'est un milieu. Je fais partie intégrante de ce milieu-là. Je le connais. Je l'ai côtoyé même à l'international. Je suis partie m'entraîner 2 ans aux États-Unis. Je pense être légitime dans cette place-là de promoteur et en plus j'en ai envie. Donc
t'as rencontré des canters ou des dunking?
Non, j'ai pas rencontré Dunking. Non, j'ai pas rencontré Dunking.
Aux États-Unis, dans ton milieu, la boxe,
complètement. J'en ai vu d'autres, j'en ai croisé d'autres. J'ai croisé Bob Arum, par exemple.
Bob Arum, pas mal, ouais. Ouais. Il a 92 ans, 93 ans. J'ai vu un papier, il est encore dans le coup.
Il est complètement
incroyable.
Complètement. Il sait très bien de quoi il parle.
Il a commencé fin des années 50, début des années 60. Ouais. Prends compte, il y a quelques lunes. Il en a vu passer quelques-uns des boxeurs.
Complètement.
Estelle, tu disais que tu étais légitime pour organiser des combats, mais tu étais légitime aussi pour être porte-drapeau. Tu l'as dit haut et fort. C'est vraiment un souhait, t'as vraiment envie d'être.
Ouais, c'est un souhait que j'ai, être porte-drapeau. Ça sera mes derniers Jeux Olympiques. Alors, si je peux faire tout ce que je peux lors de ces Jeux.
Il y a un million de personnes qui t'écoutent, là. Tu peux faire la promo, là. Vas-y.
Bah, finalement, c'est les athlètes qui voteront, hein. Donc c'est un message passé aux athlètes. En tout cas, oui, ça sera un honneur pour moi d'être porte-drapeau parce que je reviens sur les Jeux pour ça. Pour partager mes expériences avec une team olympique, mais au sens large, pas que la boxe, la team avec tous les athlètes qui seront représentés. J'ai envie d'être avec eux, d'avoir ce rôle de leader et de dire, moi je viens pour gagner pour un deuxième titre, venez pour la même chose, venez pour donner le maximum de ce que vous avez à offrir. Et vous êtes entraîné pendant de longues années, donc c'est pas pour rien.
Mmh. Bravo. Estelle, j'ai deux questions sur ta préparation sur les jeux parce que ça, en fait, ça arrive très vite. Je te le rappelle.
Oui.
Déjà, comment va ton nez? Parce que tu n'as pas été autorisée à participer au championnat d'Europe.
Non, c'est pas que j'ai pas été autorisée du tout. Il est pas mal. Hein. On a bien rapistolé ça.
Tu t'es fracturé le nez.
Exactement.
Donc forcément, c'est compliqué pour boxer. Comment ça se passe?
Je vais aux Europes. J'y vais. Pas pour boxer puisque j'ai encore besoin d'avoir une certaine protection quand je mets les gants. Mais je vais faire du sparring avec d'autres athlètes, celles qui sortiront de la compétition. Et
donc
ce sera très bien. Et puis observer. Je vais boxer et observer ce qui se passe. Volontairement, j'ai pas envie de me dévoiler de trop à mon avis.
Quel a été ton modèle comme boxeuse?
Est-ce que j'ai eu un modèle comme boxeuse? J'en ai pas vraiment eu.
Madame Lamarque a été une des premières connues.
Myriam Lamar a une belle carrière. Oui, complètement. C'est juste qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les Jeux. Qu'il y aurait eu les Jeux, bah, ça aurait eu une dimension tout autre parce que c'est une fille qui en voulait, qui s'entraînait comme une dingue et qui avait ses qualités propres à elle. Mais il y en a eu d'autres. Hein. De toute façon, nous, on a été, on a eu la boxe qui a été intégrée aux Jeux sur le tard. Et c'est pour ça que le développement s'est fait aussi tard. C'est très lié, hein, le développement de la boxe féminine en France est très lié à l'arrivée des Jeux Olympiques finalement.
Tu en as vécu, excuse-moi, tu en as vécu de quand t'es professionnel, tu gagnes de l'argent.
Oui.
Tu en vis correctement.
C'est pour ça que je suis passée professionnelle.
Ouais,
pas pour pouvoir en vivre. Je ne voulais pas passer professionnelle. Pour moi, l'objectif, c'était une médaille olympique. D'avoir eu la médaille olympique m'a apporté des possibilités et m'a permis d'avoir des contrats qui me permettent aujourd'hui de ne faire que de la boxe.
Voilà.
Je trouvais ça tellement fou de devoir faire un sport aussi dur et de devoir travailler à côté, de ne pas pouvoir faire que ça, alors qu'à l'international, ça se faisait déjà. Aujourd'hui, il y a plein d'athlètes qui vivent que de la boxe.
En France, ça
a commencé tard.
Ton cas est rare.
Mon cas est rare, complètement. Et je pense que j'ai peut-être été la première à être dans ce cas-là, justement, de pouvoir vivre uniquement de mes combats, parce que j'ai été championne olympique.
Et Estelle, on est à 100 jours des Jeux à Paris. Tous les athlètes ont ce problème à gérer de place, à donner aux amis, aux familles.
C'est l'enfer. Moi aussi, depuis hier, je suis sur le coup, là.
Lance un appel, encore une fois.
Je suis en train de stocker des places. Terrible.
C'est vrai, c'est une galère.
Ça coûte cher, hein, par contre. Oh là là, ça coûte cher, c'est terrible. Mais oui, c'est. Les places, c'est au-delà d'être une galère, c'est que on sait qu'il y aura du monde. Moi, je sais que le nombre de personnes autour de moi qui va venir déjà, rien que ça, pour avoir autant de places, c'est compliqué. Donc c'est l'enjeu pour tout le monde de se sentir soutenu et de pouvoir de permettre à tous ceux qui
nous suivent. T'as la possibilité d'en acheter.
J'ai la possibilité d'en acheter. On a des
priorités.
On a des priorités, mais c'est limité en termes de places.
C'est très réglementé et tu peux pas déraper.
On peut pas en acheter 40, quoi. Donc c'est limité et une fois qu'on a atteint le quota, on atterrit un peu comme tout le monde.
Est-ce que tes enfants viendront voir le tournoi de boxe?
Complètement. Hein, oui. Ouais. Leurs places sont déjà assurées. Ça, c'est clair. C'est depuis longtemps. J'ai déjà assuré les places pour mes parents, mon frère, mes enfants. C'était primordial pour moi. Et puis, dès que je peux, je rajoute des places supplémentaires.
Il y a quelques semaines dans le Figaro. Vincent a cassé ses lunettes.
Mais non,
Vincent a monocle.
6 lunettes par an, mais c'est pas possible.
Dernière question sur ta préparation. Il y a quelques semaines dans le Figaro, tu annonçais la couleur. Tu disais là je rentre au couvent. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, j'évite de boire le petit verre de vin rouge de trop ou même un verre de vin rouge.
Je ne bois plus depuis le 2 janvier 2024.
Quand on connaît la date précise, ça veut dire qu'il y a un petit manque quand même.
Précise.
Raconte-nous, est-ce que c'est un véritable effort là? Je suis sérieux parce que t'as une vie quand même. Voilà, tu boxes pas tous les jours. Ça se passe comment? C'est une souffrance ou tu le vis bien?
Non, c'est une façon d'être concentré, dans ma préparation, de ne rien laisser au hasard. J'ai plus l'âge que j'avais en 2016. Il y a 8 ans qui sont passés. Il y a 2 grossesses qui sont passées. Donc, je suis consciente que je dois être un peu plus exigeante.
Mais t'étais pas une pauvre non plus quand même.
Non, pas du tout. Mais quand je dis, je préfère ne rien faire plutôt que de s'accorder de temps en temps et voilà, c'est vraiment pour moi c'est aussi un état d'esprit.
Je suis comme toi.
Vincent a arrêté depuis le 16 avril 2024.
Pour retenir la date, attention.
Merci.
Mais j'ai pas donné la date de fin. Vraiment, jusqu'au 6 août.
Tu vas prendre une dégelée.
Merci Estelle. Bonne chance. Et donc la campagne pour le porte-drapeau, on rappelle.
On croise les doigts.
Votez Mosley. Hein. Tu te balades avec.
C'est un message donné aux athlètes. En tout cas, ils peuvent compter sur moi et j'espère que
je représenterai. Pas que tu te présentais aux Européennes, je savais pas.
Merci Estelle. On va faire une heureuse. Estelle cherche des places, mais nous on en a des places.
Oui. On est gavé de place,
oui. On est gavé de place. Ah, oui. Et je me demande ce que Yann fera au mois d'août prochain. Il est avec nous au 32-16.
Yann, comment il va?
Salut Yann.
Ça va.
Qu'est-ce qu'il dit?
On ne peut mieux.
Ah. Vincent va t'offrir des places pour les JO, t'imagines?
Qu'est-ce que tu aimerais aller voir?
L'athlé, j'y suis très bien, mais
Vas-y, physique. Christophe.
Alors, j'ai pas d'athlé, malheureusement, pour toi, Yann.
On a la pêche sur canard.
Mais j'ai 2 places pour la finale et les médailles de bronze de tennis de table, hein, avec peut-être les deux phénomènes, les frères Lebrun, évidemment. Ce sera le 4 août à l'Arena Paris Sud. Soit 2 places pour assister à la finale masculine du tournoi de handball avec évidemment ils y seront, c'est sûr, à l'équipe de France.
Voilà.
Ce sera le 11 août et là il faudra aller jusqu'à Lille.
Alors Yann,
les hand sont visités.
Magnifique.
Très bien. Très bien.
Le sport roi super. Collectif du, des JO.
C'est pas vrai.
Super.
C'est sûr.
Voilà Yann, et ben on espère que tu vas te régaler.
Bravo,
et si tu aimes le hand, figure-toi
c'est
que
génial.
Dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter le Super Moscato Show. On sera avec Mickaël Guigou, on sera avec Siraba Nebele et on va même avec le sélectionneur de l'équipe de France masculine, Guillaume Gilles, qui sera avec nous quelques instants, juste dans un instant sur RMC.
16h25, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show en direct du Grand Palais éphémère.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Il est 16h31, vous le savez, tous les après-midi on est là. De 15h à 18h, on est au Grand Palais éphémère, J-100 avant les Jeux Olympiques. Christophe, là il y a The Grand Dauph, comme on dit, le Captain Dauphinois.
Évidemment, rappelez-vous, il y a 3 ans, les sports collectifs français nous avaient fait vibrer lors des Jeux de Tokyo, notamment le hand, en décrochant 2 médailles d'or chez les garçons et chez les filles. Il va falloir faire encore mieux dans quelques mois à Paris.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Et pour parler de hand, la Dream Team s'est renforcée sérieusement, évidemment, avec tous ces tournois qui arrivent. Siraba Nebele est avec nous. Bonjour Siraba.
Ça va, Siraba.
Salut. Salut.
Championne olympique, c'était à Rio en 2016, c'est ça?
Oui.
Et médaillée d'or européenne, mondiale, elle a tout gagné. Elle a tout gagné, sauf le titre olympique quand même, Siraba.
Sauf le titre
olympique.
Ça va pas lui rappeler. Sympa que il faut dire les choses. On dit sur RT.
Comme notre consultant.
On dit les choses.
Sur qui? Sur quelle radio?
Il cramait, ça y est, il a dit RTL. Puni. Ça, c'est pas de salaire au prochain mois.
Il a dit RTL, non mais ça déconne.
Il n'a rien dit du tout.
Si tu le dis.
Et Mickaël Guigou, alors lui, il a tout gagné. Il a tout gagné. On en parlait tout à l'heure, Mickaël, c'est 10 titres. Majeur, Jeux Olympiques, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, dont 3 titres olympiques.
C'est ça. Oh. Bonjour à tout le monde.
Salut. Il y a 10 titres.
Et on a aussi un garçon avec qui t'as un peu joué.
Avec qui j'ai joué. Et
puis, tu as été son capitaine également.
Exactement.
Guillaume Gilles, sélectionneur d'équipe de
Salut,
France,
Guillaume.
Est avec
Salut,
nous.
Salut Guillaume.
Bonjour à tous.
Comment ça va Guillaume?
Oh, nickel. Impeccable.
Ouais, on est bien. J-100.
Bah, ravi de se retrouver quand même dans ce contexte-là où autour de tout cet événement, on rentre quand même un peu plus dans la réalité de ces Jeux. On en a beaucoup parlé depuis la phase de candidature. Là, vraiment, pour nous, le chemin est un peu tracé. 100 jours, c'est à portée de fusil.
Vous partez en stage combien de temps avant?
C'est pas quoi, beaucoup. 4, on se retrouve le 20 juin pour début
le
de
la ouais.
Ouais, voilà. Parce que là, les garçons sont encore tous avec
en
leur club.
Ouais.
En compétition nationale, ils finissent les Coupes d'Europe. Donc
c'est très rapide.
Ouais, c'est hyper court.
Après, l'avantage, c'est qu'il y a eu une compétition, il y a eu l'Euro il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, les bases de jeu sont déjà en place, non?
Ouais, c'est sûr, mais est-ce que tu es certain d'avoir les mêmes garçons?
Ça, c'est toi qui veux me le dire. Hein, c'est moi.
Mais moi, si j'en étais certain, je pourrais te le dire. Mais au final, tant que les compétitions ne sont pas terminées, j'ai encore un peu de temps pour faire ma liste et surtout pour m'assurer que j'ai pas de casse.
Alors, il y a eu le tirage au sort des poules hier. Il faut que tu nous expliques ça. Il faut que vous nous expliquiez ça. Ça parce que là, c'est un mystère, notamment pour.
J'ai toujours su qu'il fait un sport bizarre.
Parce que vous avez eu le droit de choisir la poule. C'est-à-dire que, en tant que pays hôte, c'est ça, Guillaume. Ouais. Donc, il y a eu le tirage qui a été fait avec les noms des pays qui sont tombés. Mmh. Et tu as eu le droit de dire, moi, je veux jouer dans cette poule.
Exactement.
C'est ça.
C'est le règlement de la compétition des Jeux. Qui nous offre la possibilité de choisir sa poule. Donc au final, quand on voit le plateau qui était quand même proposé, on a certainement le plateau le plus relevé de toutes les compétitions olympiques depuis le début de l'arrivée du handball en sport olympique, parce qu'on a quasiment que des Européens. Et donc aujourd'hui, choisir la poule A ou la poule B, ouais.
On rappelle la poule B.
Toi, t'as choisi l'Indonésie, les Bahamas.
On rappelle la poule que tu as choisie, peut-être en accord avec tes joueurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais donc Danemark, Norvège, Hongrie, Égypte, Argentine. Vous débutez dans le dur, avec la poule la plus dure. Jouer le Danemark, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Pourquoi ce choix, concrètement? Quel est le but?
C'est notre ennemi sur les 3 dernières compétitions. C'est l'équipe que l'on joue quasiment en finale. La dernière finale des Olympiques à Rio était déjà un France-Danemark, perdu sur ce coup à cette occasion-là. La dernière à Tokyo, c'est nous qui l'emportions d'une courte tête. Le dernier mondial 2023, c'est eux qui nous damnent le pion. Et à l'Euro 24, c'est nous qui en sortons.
Et quelle est la stratégie? Pourquoi vous prenez le groupe le plus compliqué?
Parce que c'est aussi une idée de se dire, une fois qu'on a pris le Danemark et qu'il est avec nous, on le rencontrera plus avant la fin de la compétition.
Ah oui, tu ne peux le retrouver qu'en finale.
Ouais.
Et en plus, le marquer psychologiquement, si tu leur mets une tannée.
L'idée, c'est aussi qu'on est quand même dans un groupe qui est aussi très, très solide. Et c'est aussi de se dire que, même si on parle franchement d'une densité qui est incroyable entre ces deux poules, mais c'est d'imaginer qu'on va croiser en quart de finale à l'issue du tour préliminaire face à des équipes qui sont d'un niveau très, très stable, très, très fort, mais aussi plus abordable certainement.
Le père Fouras, Karabati, qui sera avec vous dans la...
c'est une bonne question. Le grand sage de l'équipe. En fait, ce qu'on espère, c'est que là aussi l'ensemble du groupe va terminer les compétitions nationales dans de bonnes conditions.
Ouais, voilà.
Et que j'aurai le mal de tête pour désigner les 20 garçons qui vont débuter la prépa.
Ouais.
Ça va être
Vincent, tu sais que si Nico Karabati et donc l'équipe de France de monte sur le podium et ont une nouvelle médaille, Nicolas Karabati deviendra le handballeur le plus médaillé devant Mika Guigou.
Non, mais ça y est, il l'est déjà.
Olympique.
Donc tu souhaites que l'équipe de France ne monte pas sur le podium, Mika.
Ouais, non, c'est compliqué quand même.
Moi, je l'ai dit à Nico, j'espère qu'il va aller chercher, c'est bien évidemment, une dernière belle médaille. Et j'espère une médaille d'or. Ouais, je suis solidaire quand même.
Ah, bravo.
Merci Guillaume.
Merci Guillaume.
Plein de bonnes choses, merci bonne préparation pour ces jeux. Bon, et puis évidemment, la médaille d'or. Il n'y a pas d'autres médailles possibles. Ça,
bien final à Lille.
Merci Guillaume.
Les basketteurs vont laisser la place au handballeur à Lille.
Ah oui,
ils vont croiser.
Et qu'est-ce qu'ils vont laisser comme atmosphère là-bas?
Une très belle atmosphère.
Ils vont pas y camper longtemps, ils vont être éliminés rapidement.
Alors, les garçons ont choisi donc la poule la plus difficile. Dirabat, c'est pas le cas de l'équipe de France féminine qui, elle, a fait l'inverse en fait hier lors du tirage
la Hongrie,
parce qu'elle avait le droit au même droit finalement que l'équipe de France.
La Hongrie, les Pays-Bas, oui. L'Espagne, le Brésil et l'Angola pour l'équipe de France.
Oui, et c'était trop risqué. Enfin, moi, à titre personnel, je pense de choisir la poule A. Le niveau en fait des équipes françaises, il est vachement resserré. Et aujourd'hui, voilà, les quatre qui peuvent se qualifier en quart de finale, si la France venait se rajouter à ces quatre, ça faisait trop risqué, donc ils ont préféré rentrer dans la compétition tout doucement,
piano,
petit à petit. Exactement, ouais. Exactement.
C'est stratégique, c'est compliqué.
Le fait d'avoir le choix, c'est pas évident. Choisir les poules, les adversaires, ou choisir les arbitres.
C'est bizarre que Bernard Laporte n'ait pas opté pour ce mode de fonctionnement en rugby, non, de choisir les poules.
C'est toujours du pari, ça.
Rigole. On rappelle quand même que l'équipe de France a affronté la Nouvelle-Zélande et que c'était un choix en premier match.
C'était le premier match de la Coupe du Monde.
Oui, mais lors du match, mais ils n'ont pas choisi d'être dans cette poule-là.
Ça nous apporte des chances.
Ils n'ont pas lancé complètement.
Tirabat, quel est le niveau de cette équipe de France? Elle est aussi forte qu'à Tokyo il y a 3 ans?
Clairement oui, au vu de ce qu'elle montre là depuis Tokyo, c'est incroyable. Elles explosent toutes les équipes une par une. Elles dominent complètement une équipe invaincue depuis je crois quasiment des mois et des mois.
C'est pas trop? Non, mais je te pose la question naïvement, mais tu te dis, mais tu veux. Tout le monde vous attend au jeu. Tout le monde attend les filles. Bien sûr.
Pour être costaud dans la tronche, il vaut mieux que quand même.
Mais bien sûr, et puis c'est aussi, je pense qu'elles sont en confiance, et je pense que c'est bien aussi d'attaquer une compétition à la maison en emmagasinant de la confiance. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que cette équipe, elle a beaucoup d'humilité. On voit que, elle veut toujours progresser. Elles savent qu'elles sont au top level, mais elles ne sont pas encore arrivées, quoi.
T'imagines qu'elles se chauffent, hein?
c'est la dernière de Crumbles en plus, je crois. C'est la dernière
compétition. Ouais, exactement.
Enfin, on ne sait jamais, il peut revenir. Hein. Il a déjà fait.
Encore.
Je crois que là, c'est bon. C'est sa dernière.
Ça fait déjà 10 ans qu'il a tous ses trimestres. Hein. Il va falloir qu'il dégage. Hein.
Mickaël Tirabat, c'est vrai que le hand français est tellement supérieur. On rappelle, vous avez les deux équipes de France ont remporté les derniers titres cet hiver, champion d'Europe et champion du monde. Les deux équipes sont championnes olympiques. C'est franchement, vous êtes attendu comme le loup blanc par tout le monde, comme le disait Vincent. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Tout le monde vous attend au sommet, quoi. Ce serait presque une déception d'avoir une médaille d'argent.
Une demi-finale, c'est un échec.
Vous
nous avez trop habitués.
Mais ouais, c'est ça.
Ouais, mais après, je crois qu'on a montré aussi par le passé qu'on est capable d'assumer. Ouais. Après, il va falloir assumer en France avec la pression de jouer en France. Ça va être aussi un sacré défi, mais un défi pour tous les athlètes qui vont participer aux JO. Je crois qu'ils ont envoyé à la fois les garçons et les filles un sacré message pour montrer qu'ils sont prêts quelques semaines avant la compète. Et après, ben, on connaît nos adversaires, pour les, en tout cas pour les garçons, c'est vraiment le Danemark. Donc je comprends le choix de Guillaume pour
pouvoir... de les marquer psychologiquement aussi, de leur rentrer dans la gueule d'entrée de jeu et de les retrouver en finale.
Bien sûr, mais ce qui s'était passé il y a 3 ans, c'est qu'on avait joué le Danemark pour le premier match, mais c'était un match amical avant de rentrer dans la compétition. Et là, par contre, on avait subi la domination danoise et ça nous avait servi pour les retrouver en finale après. Donc ça peut être peut-être la même chose.
Et puis il y a une certaine symbolique sur ce France-Danemark. C'est la dernière de Nico Karabatic, c'est la dernière de Nick Hansen aussi. Les deux plus grands joueurs du monde depuis 10 ans.
Exactement, c'est la finale qu'on attend. Avec deux légendes qui vont arrêter et puis que le meilleur gagne.
Qu'est-ce qui fait que cette équipe de France.
Ceux qui seront enterrés à la place du soldat inconnu.
Masculine fait la diff. Parce que l'équipe de France de hand en ce moment ne survole pas le hand mondial. Tu vois, vous n'écrasez pas le hand mondial. Les confrontations sont très serrées.
Ça a été le cas pendant quelques années.
On l'a vu.
Le miracle Elohim prend.
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je vois.
Voilà, c'est très serré, ce sont des matchs de folie. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, t'as Elohim Prandi, t'as des scénarios incroyables et ça tourne toujours en votre faveur, là, en ce moment? C'est quoi la différence?
Pas toujours, parce que sur la finale d'avant, on avait perdu contre le Danemark, qui nous avait dominé, mais c'est vrai que je crois qu'on a la faculté d'avoir toujours des joueurs hors norme. Là, c'est Elohim Prandi qui va mettre ce coup franc là. On a Didi quand même qui sont capables avec leur liane d'aller chercher des choses, des solides, des guerriers comme Ludovic Fabregas en défense. On a toujours.
Et puis la chance, ça fait partie d'une belle équipe au cocu, une belle chance. Mais oui, et voilà.
Si tu avais été arbitre objectif, si tu avais regardé la vidéo au moment du tir du coup franc d'Elohim,
tu mets pas un dollar.
Tu peux pas.
Est-ce qu'il est valable ou pas?
Ouais, pour moi, il est valable.
Tu paries pas, tu mets pas un dollar dessus. C'est impossible.
J'ai une question pour Siraba. Est-ce que tu penses que Alison Pino va pouvoir passer le cut et pourra être présente aux Jeux Olympiques?
Pour l'instant, il n'y a plus dans les plans d'Olivier Crumbles, on le rappelle. Hein, c'est au moins qu'elle n'est plus en équipe de France.
Mais faudrait inviter Olivier pour lui demander. Mais après, faut être réaliste. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'Alison n'a pas été sélectionnée? L'équipe a performé sans elle et plusieurs compétitions d'affilée. Je suis très triste pour elle. Je suis très triste pour elle parce que je pense qu'elle aurait aimé finir vraiment sa carrière sur un événement tel que les JO. Mais malheureusement, ça fait un moment qu'elle est écartée du groupe. Quoi. C'est la cruauté du sport. Quoi.
Tu es passé à autre chose, toi? Parce que tu es tout jeune retraité. Est-ce que quand tu vas commenter les copines, tu vas te prendre toujours pour une joueuse? Comment ça se passe?
On a toujours j'ai toujours cette excitation de voir les filles sur le terrain et de les rejoindre pour jouer. Ça, c'est une réalité.
T'es jamais énervé quand tu les vois?
Énervé, c'est-à-dire
des regrets. Tu te dis, j'aimerais bien encore être avec elle.
Je suis quand même vachement meilleur qu'elle, quoi.
Non, mais tu pourrais avoir ce sentiment.
Non, parce que déjà, je suis passé à autre chose et c'est une autre génération, en fait. Voilà, je fais partie d'une histoire et là, j'ai la sensation que c'est une autre histoire, une autre génération.
C'est plus en équipe, quoi.
Exactement. Ouais.
On continue, vous restez avec nous, vous avez encore un peu de temps là, Siraba. On va continuer d'évoquer les autres sports co français qui vont essayer de faire aussi bien que vous. Le volley avait fait aussi bien, les garçons avaient fait aussi bien il y a 3 ans. Le basket un peu moins bien, mais là évidemment avec Wembanyama on va gagner le titre olympique.
Ça balle pas non plus, moi.
Avec Joel Embiid.
Il y a une petite équipe américaine.
Non, mais la carte d'identité, donc normalement il va arriver bientôt, d'un moment à l'autre.
Et puis, on sera avec Ilana Rupert, justement, membre de l'équipe de France de basket féminine, dans un instant.
Il est 16h43, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show, en direct du Grand Palais Éphémère.
Vincent Moscato.
Il est 16h48, on est en direct du Palais Éphémère, bien sûr, J-100, avant les JO. Christophe, dis-moi tout, là. Régale-nous.
Alors, dans un petit quart d'heure, on va quand même revenir sur l'exploit du Paris Saint-Germain parce qu'Éric Dimeco a très envie de nous en parler.
Oui. Hein, le maillot de Vitinha, Éric. Pas le Vitinha de Marseille, hein, c'est le Vitinha du PSG.
Il a dit, je me suis régalé. J'ai vu des grands matchs dans ma vie, mais là, je me suis régalé. Donc, il va nous en parler.
Et il dit même que c'est peut-être l'année pour Paris Saint-Germain.
Il me dit souvent, c'est plus dur de battre une équipe quand ils sont 10. Chaos, voire même à 12.
Parce qu'il a le maillot de Vitinha, mais tout en dessous, il a le maillot du Borussia. Il y a un t-shirt tout jaune fluo qui c'est bizarre.
Sold out des maillots du Borussia Dortmund.
Sold out, oui.
3 millions de commandes à région PACA.
Mais en attendant, on continue d'évoquer les Jeux Olympiques et les sports co français, évidemment, qui vont cartonner.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Et nous sommes toujours avec nos champions qui font partie de la Dream Team RMC. Michael Guigou qui vient de rentrer dans cette Dream Team. Ça fait quoi de rentrer dans une grande équipe comme ça, Michael?
Je suis tellement heureux. J'avais plus d'équipe depuis deux ans et voilà, je retrouve une équipe.
Tu as conscience que intellectuellement tu vas t'élever encore plus?
Ouais. J'ai peut-être pas pris conscience de tout.
Est-ce que si Rabat t'as briefé un petit peu parce qu'elle a déjà fait des compètes avec nous?
Ah oui. Quand même
une des derniers championnats.
Ouais, exactement.
Tu es transformé, non? Tu es transformé.
Transformé, je sais pas, mais mais en tout cas c'était une belle expérience. J'ai
c'est la première fois que tu travailles pour une radio.
Exactement.
Ah ouais, pour un média.
Ouais, exact.
Et toi, Michael?
Et c'est la première fois.
C'est la première fois.
Ouais. Et toi, Vincent?
Moi, ça fait. Moi, je suis passé par Sud Radio. J'avais fait une belle carrière, brillante.
J'avais signé un beau contrat, d'ailleurs.
J'avais signé un beau
que t'as pas
jusqu'à la fin. J'avais oublié que j'avais un contrat et je suis parti. J'embrasse, bien sûr, mes collègues de Sud Radio.
Alors, on a parlé de hand. On va maintenant s'intéresser au basket, Steve.
Merci.
Bah oui, quand même. Ouais.
Enfin,
le tournoi de basket.
Enfin, on passe d'un sport de préau à un autre sport de préau.
Et pour parler basket, donc, Steve, tu allais nous parler du tournoi masculin. Mais on a aussi une grande championne, une jeune championne de l'équipe de France qui est avec nous. Elle est en direct d'Italie parce qu'elle n'a pas fini encore avec sa saison. Ilana Rupert est avec nous. Bonjour Ilana. Est-ce qu'elle nous entend?
Salut.
Bonjour. Salut Ilana, ça va?
Oui. Bonjour, bonjour. Ça va, merci.
Bon, Ilana, ce tournoi olympique. T'es pas venue à Paris pour le J-100? Tu te sens pas encore concernée par ce tournoi olympique ou t'as d'autres chats à fouetter en ce moment?
Bah, j'avoue que là en ce moment avec le club ça va être le début des playoffs, donc c'est vrai que là ça va être compliqué pour moi de venir.
Mais Ilana, tu m'as confié qu'il y a eu le tirage au sort il y a trois semaines maintenant, que c'était quand même un moment important. Tu étais devant ton écran à regarder le tirage au sort et là tu t'es dit ok, là c'est quand même un peu le début des jeux.
C'est ça, c'est vrai que le tirage au sort ça rend tout plus réel et de savoir enfin contre qui on va jouer, ouais c'est excitant.
Mais Ilana, je suis avec Vincent Moscato, parce que c'est le Moscato Show. Le basket, il n'a pas de respect pour le basket, Ilana. Il n'a pas de respect pour le basket, donc on va essayer de faire son éducation. Voilà. Il nous disait que chez les filles, alors j'ai essayé de lui expliquer que les Américaines sont encore plus intouchables chez les filles que chez les garçons. Est-ce que toi, Ilana, tu te dis dans ta coin de ta tête, les Ricaines, on peut les taper ou ça reste encore une nation qui surdomine et que quand tu arrives au jeu, bah, tu te dis bah, il n'y a que deux médailles à prendre finalement?
Oui. C'est ce que
non,
je disais.
Je pense qu'il ne faut pas partir avec, ce genre de mentalité. L'écart se réduit d'année en année. Donc voilà, elles sont plus aussi intouchables qu'elles ne l'étaient avant. Donc j'ai confiance quand même.
Pourquoi? C'est quoi? C'est le championnat qui est beaucoup plus élevé? C'est comme la NBA?
Bah, c'est vrai que la densité de joueuses là-bas, il y a tellement de joueuses qui jouent au basket, physiquement aussi. Enfin, la manière dont elles jouent, c'est différent. Donc, mais comme j'ai dit, elles sont plus aussi intouchables qu'elles ne l'étaient.
D'accord.
Et on rappelle qu'Ilana joue également aux États-Unis. Enfin, pas cette saison. Hein. Cette saison, tu as décidé de te concentrer sur le championnat européen. Enfin, tu joues en Italie. Mais tu as été sacrée pour ta première saison, je crois, en WNBA, championne, c'est ça, Ilana? Raconte-nous cette expérience incroyable.
C'est ça. C'est ça, avec Las Vegas, du coup, l'équipe qui m'avait draftée. J'ai participé à ma première saison WNBA là-bas et on a remporté le titre dès ma première saison. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez fou.
C'est un engouement assez particulier, c'est beaucoup plus qu'en Europe ou c'est pareil ou voilà, c'est la même chose?
Bah, c'est différent quand même. Là, c'est beaucoup plus grand, parce que c'est déjà le pays est immense. Donc c'est vrai que tu vois, quand tu vas dans les différents aéroports, etc., les gens t'arrêtent. Ah, vous jouez pour telle équipe? Tu sens que c'est quand même un sport qui nationalement est hyper suivi.
Vincent, par contre, toi, t'aurais fait comment si t'avais joué à Las Vegas?
Ah, moi, le problème, c'est que.
T'aurais été aux machines à sous.
On aurait perdu de l'oseille, on aurait peut-être gagné, mais on aurait perdu.
Non, Vincent serait mort. Il serait jamais revenu.
Ah, ouais, non, à Las Vegas, ça doit être un plaisir, non? Vous allez faire des tours de temps en temps?
C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas trop de temps, mine de rien, entre tous les matchs. Mais c'est vrai que c'était une atmosphère particulière au début.
T'as des concerts,
après, on s'y fait.
De tout. Ouais, mais t'as des concerts, t'as tout. C'est sollicitant, ouais, quand même, comme
c'est
vie.
C'est ça.
Non. Ah ouais.
Il y a David Copperfield.
Ouais, c'est vrai que Dexter.
Ça fait 40 ans.
Il a fait disparaître un avion et un casino aussi. À l'époque, c'était ça. Il s'est dit.
Bah, en fait, dès que t'as du temps libre.
Un Airbus. Enfin, non, un Boeing plutôt.
Dès que t'as du temps libre.
Ah ouais, c'est génial.
Tu y vas, quoi.
C'est génial. Alors toi, tu fais deux saisons en ligne. Ça veut dire que t'as deux contrats professionnels. T'as deux contrats professionnels. C'est possible, ça, en basket. Tu peux avoir 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre.
Deux contrats.
Tu joues 12 sur 12.
C'est ça, exactement. C'est ce qui se passe.
Tu dois être fatigué, non, des fois, non?
Un petit peu, oui, c'est vrai que la fatigue, on la ressent, mais il faut bien la gérer quoi, tout au long de la saison.
Mais là où on vit le mieux, c'est pas Las Vegas, c'est quand même en Italie. Tu vis bien, tu manges bien.
Bologne.
C'est Bologne. La Bologne.
L'Italie, ouais, ouais j'avoue. j'avoue que c'est sympa.
Tous les soirs au resto, qu'on ait pâtes au fromage, au parmesan, des antipastis, des trucs, de la focaccia.
Il est tranquille.
Il y en a ce que je te propose, parce que Vincent est fan de l'Italie, d'ailleurs, il a la famille italienne. Vous pouvez discuter en italien. Parce
que ah oui, italien. Est-ce que tu parles italien, Yana?
Je parle pas italien, il est con.
Alors, je propose, Yana, que tu commences une conversation en italien avec Vincent, et Vincent va te répondre. C'est une expérience de vie, on peut la vivre sur RMC en direct.
Je ne veux pas, je ne sais pas parler italien, donc c'est pour vous foutre de ma gueule. Ça suffit. On a échelle, Yana.
C'est à toi. Vas-y, Yana, fais-nous confiance.
Mais non.
Non, j'oserais pas le mettre mal à l'aise comme ça.
Une petite phrase.
Tu veux une pizza margarita?
Catastrophique. Oh, tu veux. C'est gênant.
Catastrophique. Yana, avant de te laisser tranquille, est-ce que c'est. Bien entendu, là, vous êtes médaillé de bronze à Tokyo. J'imagine que l'objectif, c'est de nouveau de remonter sur le podium.
Ça, c'est pas quand même. C'est pas des questions.
C'est
ça.
Sûr que l'objectif. C'est clairement de remonter sur le podium, de faire au minimum une médaille de bronze encore et voir plus quoi.
Ouais, non, l'objectif c'est de ne pas te qualifier, être nul. Non, mais des questions comme ça quand même, si vous voulez, bien entendu qu'elle veut, elle veut tout gagner la poulette.
Elle veut être championne olympique.
Mais non. Alors est-ce que tu veux être champion olympique?
Non.
Oui, je veux être champion olympique à la maison.
Mais toi, te casque pour poser des questions comme ça.
Non, me casque pas. Je viens pour toi, pour pallier tes défaillances sur le basket, tes méconnaissances sur le basket. Et quand on sera champion olympique, garçon et fille, viens pas me.
Ouais, si vous avez joué l'Embiid, peut-être. Mais bon.
Merci, Lana. On te souhaite une bonne préparation.
Merci, Lana. Merci beaucoup.
Et un super tournoi.
Avec plaisir. Merci à vous.
Dans quelques semaines, on va remercier Mickaël et Siraba également.
Merci.